18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Nous, mardi, on sera avec le THV et le Festival Imaginaire. Mercredi, on sera avec le Bioparc de Douai-la-Fontaine. D'ailleurs, il y a deux petits lionceaux qui viennent de naître. Jeudi, on sera avec un forgeron de chez WeForge. Et ce soir, on débute la semaine avec le Shabada et ses toutes dernières actualités. On va notamment parler de Ça se discute, la deuxième édition, il me semble, ça sera le dimanche 27 avril au Joker's Pub. On va aussi parler de concerts qui arrivent très bientôt, le 23 avril, il y aura Jus et Chevalier Gambette. Et ce soir, on aura aussi un podcast des indépendantes angevines et on se quittera avec un nouvel épisode de Pensée Locale. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette sur Radio G.
Mais avant tout ça, on va écouter un podcast du Graal de l'Histoire. C'est quelque chose sur la bombe.
Bonjour les humains, je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'Histoire. Avec l'invention de la bombe nucléaire, la peur de sa puissance en a refroidi plus d'un et a permis, malgré le danger, une période de paix en Occident. Mais jouer avec le feu peut être très, très, très dangereux. Cette fameuse arme nucléaire est bien réelle. On en a eu de tristes exemples d'utilisation. Il y a donc beaucoup de recherches et de manipulations autour de ces bombes. Imaginez un accident, une erreur, et c'est le drame qui se retourne contre les habitants du pays. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, rien qu'en Amérique, pas moins de 20 accidents ont failli coûter la vie à des millions de personnes. Des matières radioactives ont même été relâchées dans la nature sur le territoire américain. En particulier, un très grave accident a failli faire beaucoup de dégâts et de morts. Nous sommes en janvier 1961. Kennedy vient d'être élu président. L'armée américaine fait des manœuvres et doit déplacer plusieurs armes nucléaires. 24 mégatonnes, soit 2000 fois plus de puissance que celle qui a dévasté Hiroshima. L'avion qui transporte ces engins a un souci. Un gros souci même, puisqu'il se disloque en vol. Son chargement mortel tombe alors de plusieurs milliers de mètres. Une des bombes tombe dans un marécage. Elle y est toujours, on ne l'a jamais retrouvée. L'autre s'écrase sur la terre sans exploser. On a pu la récupérer et la rendre inoffensive. Sur les 6 systèmes de sécurité empêchant l'explosion, 5 étaient hors service. Seul le 6e a donc empêché la catastrophe qui aurait rasé toute la Caroline du Nord. Voilà, voilà. Dormez tranquille, on veille sur vous. Allez. À bientôt pour un nouveau Graal de l'Histoire.
Les podcasts du Graal de l'Histoire que vous pourrez retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de Radio G. Et du coup, nous, on va tout de suite pouvoir accueillir nos invités du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Alors du coup, ce soir, on est accompagné du Shabada et de Jérôme qui va animer la rencontre Ça se discute. Ça sera donc, si je reprends les dates, le dimanche 27 avril au Jokers. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir-là, Jérôme ?
Eh bien, en fait, donc, ça sera effectivement le deuxième rendez-vous de Ça se discute. Ça se discute, c'est un rendez-vous qu'on a imaginé cette année, en début d'année. Là, le premier rendez-vous avait lieu en février. Et c'est une sorte de club d'écoute, en fait, pour se faire pour partager nos coups de cœur musicaux. On essaye de faire un truc qui ne soit pas du tout pyramidal. Donc, en fait, il n'y a pas de genre le programmateur du Shabada qui viendrait faire écouter ses coups de cœur. Là, c'est tout le monde, on sort un thème et tout le monde vient avec un disque qui correspond au thème. Donc, le premier rendez-vous, ça avait été un morceau qu'on avait découvert dans un film. Là, pour le deuxième, on a choisi de faire une reprise qu'on préfère à son original. Donc, tout le monde vient avec son morceau, on se fait écouter ça. Sur place, il y a une platine vinyle, une platine CD, un ordi. Donc, il n'y a pas de problème de format, chacun vient avec son truc. Et on se fait écouter des morceaux et puis on rigole ensemble.
Et alors, du coup, pendant la première édition, ça a été quoi les meilleures découvertes ?
Ah ben, il n'y a pas de meilleures, justement. C'est ça qui était cool, c'est qu'il y avait des choses ultra pointues. Il y avait des étudiants étrangers qui étaient là. Il y a une étudiante polonaise qui nous a fait écouter une BO de film polonais que personne ne connaissait, bien entendu, mais c'était cool. Et il y a eu Bohemian Rhapsody de Queen, qui est normalement dans Wayne's World, et on a tous terminé en headbanging sur le morceau. En fait. Donc justement, l'idée, c'est pas du tout, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de meilleur truc. Chacun vient avec ses morceaux. Ça peut être un morceau hyper connu, mais que les gens vont annoncer avec une anecdote rigolote. Ça peut être plein de trucs. Donc en fait, c'est juste le plaisir d'écouter du son ensemble.
L'objectif, c'est aussi de faire découvrir des morceaux qui sont peut-être peu connus, que chacun ramène son univers.
Ouais, alors c'est cool s'il y aura forcément des morceaux pas connus, ça c'est super pour ceux qui ont envie de découvrir, mais en fait on veut pas non plus que ça bloque les gens, faut pas que ça soit un truc d'initié, de spécialiste. Si on n'y connaît pas grand-chose en musique, mais qu'on adore la musique, bah en fait on vient et tant mieux si c'est un morceau hyper connu, parce que aussi si c'est un morceau hyper connu, ça veut dire que les autres le connaîtront aussi et qu'ils auront aussi une expérience à partager avec ce morceau. Et c'est aussi important que d'arriver avec le morceau que personne d'autre ne connaît. Quoi.
Et pourquoi vous avez choisi le Joker's Pub pour un événement comme celui-ci ?
Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'on travaille souvent avec le Joker's et que voilà, c'est des partenaires et on sait qu'ils aiment autant la musique que nous. Et c'est surtout que pour un dimanche après-midi, enfin, déjà pour un rendez-vous comme ça, faut le bon jour. Et le bon jour, c'est le jour où on n'a rien à faire d'autre. Donc, le dimanche, c'est parfait. Fin d'après-midi, c'est bien ce que c'est juste après le goûter, juste avant l'apéro. Et donc, on ne peut pas faire venir les gens au Shabada, qui est hyper excentré. Donc, il nous fallait un lieu central. Et il n'y a pas mieux que le Joker's Pub pour ça.
Et comment on choisit le thème, du coup, chaque année ? Il y a un petit fil rouge. Comment on décide ?
Alors, ce n'est pas chaque année, parce que le rendez-vous, il va y en avoir 4 ou 5 l'année. C'est à peu près tous les deux mois, sauf sur la période estivale où on ne va pas en faire. En fait, là, la prochaine aura lieu à la rentrée. Le premier thème, c'est moi qui l'ai choisi. Enfin, je l'ai soumis à mes collègues et tout le monde a trouvé que c'était une bonne idée. Et pour le thème de cette rencontre qui vient, là, bah, en fait, on a fait ça justement, j'avais réfléchi à un ou deux thèmes. Je les ai exposés à ceux qui étaient présents au premier rendez-vous et on a voté.
Et c'est quel type de personnes qui arrivent ? C'est des amateurs de musique, des professionnels ou on retrouve un peu tout le monde finalement ?
Il y a un peu tout le monde et surtout au premier rendez-vous, ce qui était cool, c'est qu'il y a plein de gens qui sont retrouvés là parce que la porte de la petite salle du bas était ouverte. Ils sont descendus sans trop savoir ce qu'ils venaient faire. Quand je leur ai expliqué le truc, ils n'étaient même pas au courant de ce pourquoi ils venaient. Ils m'ont juste dit non, bon, on va écouter, on ne participera pas. Et en fait, tout le monde a participé au final, puisque comme il y a un ordi, on n'est pas obligé d'avoir un disque avec nous. Il suffit de penser à un morceau et puis pof, on le sort. Et du coup, le truc a duré beaucoup plus longtemps que ce que... Parce qu'à chaque fois, j'étais là, bon, alors est-ce que quelqu'un a un dernier morceau ? Et tout le monde voulait avoir son dernier morceau, donc... Non, c'est vraiment, il y avait tout profil de tous les âges, je vous dis toutes les nationalités, donc c'était super.
Et c'est peut-être aussi un bon moyen de faire des rencontres finalement aussi.
Ah ben, ça, l'avenir nous le dira.
Gaëlle, toi, est-ce que tu as déjà pu participer à cet événement ?
Pas encore, non, parce que du coup, on a initié la première en février. C'était le premier épisode d'une longue série, on l'espère. Pour le deuxième, j'espère pouvoir être là parce que je me sens plus inspirée. Et je pense que c'est ça aussi qui va être chouette, c'est que comme les thèmes ne vont pas forcément se ressembler, tout le monde pourra venir un petit peu quand il le souhaite, selon les thèmes qui l'inspirent, voilà, avec ses idées et puis ses trouvailles.
Qu'est-ce que tu penses des événements comme ça, justement, qui permettent de faire découvrir la culture musicale un peu de chacun, c'est bien ?
Bah oui, c'est bien. Nous, le Shabada, on est connu pour être un lieu de diffusion, donc, et c'est une partie qui est hyper importante, évidemment, mais les à côté, on va dire, de la musique et du partage de la musique, de l'accessibilité, de partager ensemble en fait, nos découvertes, tout ce genre de choses, en fait, ça me semble hyper important et pertinent. Et puis, ça fonctionne bien, on peut le dire, puisque au premier rendez-vous, il y avait quand même pas mal de monde et on espère pouvoir retrouver autant de personnes pour le deuxième.
Jérôme, est-ce que tu as prévu des morceaux à diffuser, toi, pour...
Alors moi, depuis le premier rendez-vous, je note tous les morceaux auxquels je pense, alors qu'à la fin, je ne pourrai en emmener que un ou deux. Donc là, j'ai quelques nuits blanches qui s'annoncent pour faire mon choix.
Il faut faire une grosse sélection à la fin.
Bah, c'est le problème, en fait. C'est qu'à partir du moment où on commence à dire « Ah tiens, ça serait pas mal », mais en fait, si on pense à ça, on passe à tel autre truc et tout, et à la fin, on se retrouve avec 15 morceaux. Mais l'idée, c'est justement que tout le monde puisse passer le sien. Donc on essaye d'en passer deux max par personne, grand maximum.
Et la soirée dure combien de temps? On passe à peu près combien de morceaux au final?
Alors c'est ça, c'est qu'au départ on l'avait imaginé pour que ça dure à peu près une heure et demie. La dernière fois on y est passé deux heures et les gens ils n'avaient pas envie de partir du tout. Donc,
ça va finir par durer toute la soirée.
C'est l'avantage, c'est que comme on est dans un bar qui de toute façon ne ferme pas tout de suite, en fait en gros ça s'arrête quand on a envie que ça s'arrête.
Oui, il n'y a pas de timing si la fête continue. On continuera à parler de tout ça, de toutes les actualités du Shabada tout à l'heure, mais on va d'abord faire une petite pause musicale et on va écouter la chanson « À mesure » de Jus. On en parlera tout après, justement.
Les obsessions s'entendent entre elles. Crois-tu que c'est un bon ménage? Lavons le linge sale, lavons le linge sale, comme si c'était pour demain. Gardons les mains sales, gardons les mains sales, quitte à se dépoussiérer. Le droit de passage en droit de vague à l'âme. Le droit de passage en droit de vague à l'âme. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est les mains qui dansent, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est les mains qui dansent, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est les mains qui dansent, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est les mains qui dansent, c'est toujours irrévérent. De droit de passage en droit de vague à l'âme. Droit de passage en droit de vague à l'âme. Ta raison te mentirait. De droit de passage en droit de vague à l'âme. À l'envers se poser. De droit de passage en droit de vague à l'âme. Ta raison te mentirait. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irrévérent. À mesure, tu tiendras la mesure. Si c'est moi qui danse, c'est toujours irrévérent.
Écoutez À mesure de Jus sur le 101.5 FM. Et d'ailleurs, ce soir, on est avec son auteur. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire l'univers musical de Jus, à quoi ça ressemble ?
Alors, l'idée, c'est de faire des choses les plus pures et les plus brutes possibles. Même si, y a des, notamment le morceau qu'on a écouté, il y avait une quinzaine de guitares empilées quand même. Mais néanmoins, c'est de faire des choses très, très jolies. Donc, sans que ce soit rococo. J'aime bien la finesse et l'élégance, un peu comme, comme dans la cuisine ou dans le vin, des choses très épurées et simples.
Tout à l'heure, hors antenne, au début, tu disais que c'était un projet solo, Jus, mais que tu étais très bien entouré. Alors, tu es entouré de qui ?
Ouais, alors du coup, je suis parti du principe que je voulais faire un peu comme certains auteurs faisaient. Ça se fait moins en moins, mais c'est-à-dire écrire tout seul en studio et ensuite tout réarranger pour le live. Donc on reconnaît les chansons, évidemment, les gens les chantent, mais elles sont réarrangées pour le live. Et donc je suis entouré, alors ça, ça m'a beaucoup ému, mais Pierre-Yves Souris, tout de suite, dès qu'il a entendu les deux premiers morceaux, il m'a dit, moi je veux jouer avec toi. Sachant que c'est un ami de longue date et un ami proche, j'ai dit, oui, moi je veux jouer avec toi. Et on s'est entendu sur la manière de réécrire. Ensuite, j'ai eu un guitariste, mais qui n'est pas resté longtemps, parce qu'il ne voulait pas trop bosser, donc il a arrêté. Il avait plus de presque 70 ans, Philippe Gouard. Et maintenant, je suis très heureux de jouer avec Alex Rowe à la guitare. Qui est notamment le guitariste de Zenzile, Zentone et Murmure. Voilà, donc c'est extrêmement agréable de jouer avec des professionnels comme ça, puisqu'ils ont presque fait le tour du monde, tous les deux. Ils ont joué un peu partout et ils ont une idée assez identique sur la manière dont on peut réécrire des belles chansons. Et du coup, les endroits beaux qui sont en studio, là on les approfondit en live, on va encore beaucoup plus loin. On va dans des harmoniques aussi des fois qui ouvre d'autres perspectives sur l'écriture.
Et alors, c'est quoi ton parcours artistique, ton parcours musical ? Est-ce que tu as toujours baigné dans la musique ?
Alors, j'ai toujours fait de la musique depuis le collège. J'ai eu beaucoup de projets, mais très énervés, jusqu'à 2015, on va dire. Et en fait, suite au confinement, on avait enregistré un album avec Nos Biennes, où on avait fait pas mal de concerts, et on avait enregistré un album avec Cali, Olivier Fournier. Et moi, j'écris très, très vite. Je peux vraiment écrire à des vitesses assez folles, quoi. Et j'avais beaucoup de matière. Et du coup, je suis rentré en studio parce que je voulais aller dans des choses un peu plus intimistes, on va dire catharsis, aller au plus profond de moi-même. Et ça me permettait vraiment d'aller dans des écritures plus introspectives et plus douces. Voilà. Même si ça reste particulièrement... sauvage quand même dans la manière de, on va dire, assez instinctive.
Alors, j'ai cru comprendre que tu sortais ton premier album. C'est pour ça d'ailleurs que tu seras en concert le mercredi 23 avril au Shabada. Est-ce qu'il y a un thème, un fil rouge pour cet album ?
L'album s'appelle Le Temps. Et avec la vie que je mène, je cours toujours après le temps, en fait. Et... d'une manière générale, ça parle de choses parfois douloureuses que j'ai pu traverser ces dernières années. Et on se rend compte que tout va très très vite et que à 40 ans, il n'en reste pas tant que ça finalement. Donc il n'y a plus de temps à perdre, quoi. En gros, c'est un peu ça.
Est-ce qu'il y aura des clips qui vont être associés aux morceaux qu'on retrouve dans l'album ?
Alors, il y a un clip qui est sorti. C'est un clip, c'est ça que tu m'as demandé ?
Oui.
Ah, pardon, je n'avais pas compris. Alors, il y a un clip qui vient de sortir deux mois, là, qui a été réalisé par Josic Jégu. Et surtout la particularité. Alors, je n'ai pas l'intention. Enfin, avec PY, on a tourné quelques images, là, donc on va peut-être en sortir un. Mais j'ai surtout l'intention de. Ça va sortir en vinyle, en CD et en numérique, mais uniquement via mon Bandcamp.
Et du coup, j'ai cru comprendre aussi que tu avais sorti ton premier EP en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu as pu avoir des retours, justement, sur ça ?
Ah ouais, super, j'ai eu plein de chroniques. Ce que je vois surtout, c'est qu'à chaque concert, il y a de plus en plus de monde. Donc ça, c'est assez touchant. Et puis, les gens chantent les chansons. Donc moi, ça me fait beaucoup de plaisir. Et on a joué au Joker's Pub il n'y a pas longtemps. Et il y avait un truc, moi, que j'attendais après les concerts, c'est qu'on me dise, dis donc, c'est beau. Et tout le monde, enfin, beaucoup, beaucoup de gens ont dit non, c'est beau. Donc ça me suffit, en fait.
Et une des chansons, je crois, qui a particulièrement marqué les esprits, c'est Sueur froide. Pourquoi, selon vous, ça touche autant le public, cette musique ?
Si j'avais la réponse, je pourrais vous la donner. Mais c'est peut-être le. C'est un morceau assez écorché dans l'écriture et dans les guitares qui se mélangent. Il y en a beaucoup, mais elles partent un peu aussi dans tous les sens. Donc ça touche en plein cœur, quoi. Je sais que moi, mais j'écris que dans l'émotion, donc c'est pas du tout festif. C'est même si j'imagine la compagnie créole, ils ont dû écrire des trucs noirs. Mais moi, c'est oui, globalement, tout est dans l'émotion. Il faut savoir que sur tous mes titres, j'enregistre le chant en une prise. Moon Pilot, il ne veut pas une deuxième. On en fait une deuxième pour la scolarité. Mais tout est en une prise. Et ça marche. Et je suis d'ailleurs assez heureux, puisqu'on commence à me demander d'écrire pour les gens des textes. Et puis, j'ai écrit une belle chanson à un trio que j'adore qui s'appelle Murmure et qui joue d'ailleurs demain à l'avant-scène à Trélazé. Et j'étais extrêmement touché de jouer avec eux et j'ai enregistré en une prise, pareil, direct, ça leur a beaucoup plu tout de suite. Il y a des sifflets, il y a des chœurs, il y a plein de trucs. Et, voilà, c'est très touché pour écrire pour ces gens-là parce que c'est des gens sur scène, ils sont totalement habités. C'est assez rare de voir ça aujourd'hui. Voilà.
Et toi, tu as quel rapport justement avec la scène ?
Ah bah moi j'adore ça, si je pouvais faire ça tout le temps, j'aimerais bien le faire, mais alors j'ai horreur de causer, donc je cause pas, j'aime pas quand les gens y causent pendant les concerts, donc on enchaîne les morceaux et puis on dit des petits mots de temps en temps, mais très à l'aise avec la scène. Ouais.
Et du coup, le 23 avril, tu vas être en compagnie de Chevalier Gambette, un duo rennais. Tout à l'heure tu disais, est-ce que tu aimes leur univers musical, comment tu pourrais le décrire ?
Alors oui, Alan Corbel, notamment le leader de ça, c'est un très, très très bon ami. C'est de la très très belle chanson. Alors il y a des parties anglo-saxonnes et des parties françaises. Mais il faut savoir que Alan Corbel, il a fait 30 premières parties de Music, il a fait une tournée complète avec lui. Il a fait 50 premières parties de Vanessa Paradis. Enfin, c'est un monstre. Hein. Et il a écrit beaucoup beaucoup d'albums. Et là, il a pris le temps parce qu'il est jeune papa. Donc, mais c'est du très, très haut niveau vocal anglo-saxon. C'est un des grands chanteurs, grands musiciens. Et depuis peu, il se met à écrire en français et il le fait très, très bien.
Gaël, pourquoi vous avez choisi de programmer Jus et Chevalier Gambette ce 23 avril ? C'est un univers qui touche particulièrement, que vous appréciez particulièrement au Shabada ?
Bah oui, c'est aussi, enfin il y a de ça forcément, mais c'est aussi parce que nous en fait en tant que SMAC, on a pour vocation d'accompagner les artistes de la scène locale et les artistes émergents, et en fait on est très heureux de pouvoir accompagner les artistes angevins qui sortent de nouveaux albums. Là, cette release party, elle est hyper importante pour nous aussi, parce qu'en fait c'est super de pouvoir accueillir des projets comme celui de Jus au Shabada et de pouvoir en fait être le lieu où se passent ces release parties en fait.
Stéphane, le programmateur du Shabada, il est pas là pour en parler, mais je pense qu'on peut dire son l'idée qu'il a derrière tout ça. Lui en fait, son métier, pour lui, il le voit comme la capacité de mettre un public et un artiste en relation, et donc au bon moment, au bon endroit. Donc parfois, quand c'est encore tôt, il ne faut pas que ça soit au Shabada, il faut que ça soit dans un autre lieu où la jauge va être plus petite, parce que ça ne rend pas forcément service à un artiste de jouer devant 40 personnes. C'est mieux qu'il joue devant 40 personnes dans un endroit qui est fait pour contenir 40 personnes. Et donc, on est là pour accompagner, pour guider, dire voilà, ça serait peut-être mieux d'être à ce moment-là, à cet endroit-là. Et petit à petit, ça arrive que ça y est, maintenant, c'est assez pour être sur la scène du Shabada, soit la petite scène, soit la grande scène, avec les personnes qu'il faut en face. Et donc, Jules en arrive à ce niveau-là, maintenant, de pouvoir faire une release party au Shabada, parce qu'il y aura des gens que ça va intéresser. Et ça peut que tout le monde va s'y retrouver, en fait, quoi.
Julien, c'est vraiment une vraie étape de monter sur scène au Shabada.
On avait joué l'année dernière, je crois, j'ai vu trop. Oui, c'est une vraie étape. Et en plus, ce que j'aime bien... Alors moi, Stéphane, il m'a énormément aidé. Je sais qu'il aime bien mon projet. Et en plus, il m'a beaucoup aidé sur la construction économique, puisque... Il faut que je réponde à votre question. Mais oui, c'est génial. On est trop contents de jouer au Shabada. Les conditions sont super, l'accueil est top. Et on a la possibilité de vraiment faire un joli son, quoi. Mais je voulais venir sur l'aspect social de mon projet, puisque je suis désormais entrepreneur du spectacle aussi. Et sur le concert au Shabada, Stéphane m'a aidé à construire économiquement en fait mon projet, puisque je suis en capacité de faire des contrats de session maintenant. C'est-à-dire que j'embauche aussi mes musiciens. C'est moi qui fais les déclarations. Donc il y a tout un volet social qui est passionnant, que j'ai envie de mettre en place. C'est vrai que je maîtrise tout. Et je leur fais à manger aussi, parce que j'adore faire la popote. Mais voilà, oui, c'est une super étape de jouer au Shabada. Voilà, parce que c'est cohérent. Et le fait de sortir, surtout en physique, ma matière, c'est aussi cohérent. C'est une véritable sortie de disque. Là, c'est pas un son que je balance sur une plateforme numérique comme ça. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Et là, ça prend tout son sens, en fait.
C'est un grand événement, j'imagine. Gaëlle, vous avez au Shabada, c'est un vrai objectif pour vous d'accompagner sur tous les points les personnes, les chanteurs, les auteurs, compositeurs, comme expliquait Julien.
Par envie déjà, oui. Et puis aussi, en fait, ça fait partie de nos missions également. Donc, même si on n'avait pas envie, et ce qui n'est absolument pas le cas, c'est dans les valeurs que promeut l'association et également, en fait, dans les missions qu'on a en tant que SMAC, donc Scène de Musique Actuelle, label qu'on a, qui nous est desservi par l'État, on doit, en fait, accompagner les artistes émergents, les artistes de la scène locale. C'est hyper important parce qu'en fait, nous, en tant que salle de concert, on peut le faire et on doit le faire. Et des zéniths, enfin, des grosses salles comme ça, en fait, peuvent pas se permettre d'accompagner la scène locale parce que c'est déjà trop gros. Nous, on est pile la bonne taille pour pouvoir accompagner et accueillir des projets comme celui-ci. Donc,
pour que les auditrices et les auditeurs y comprennent bien, en fait, une SMAC, pour avoir ce label d'État, en fait, on doit répondre à quatre grandes missions. La première mission, c'est la diffusion, donc c'est les concerts. Et encore, c'est des concerts plutôt découvertes. En fait, en gros, c'est les concerts que les producteurs privés ne feraient pas nécessairement. Ou s'ils le faisaient, en fait, le prix serait double parce que, en fait, eux, ils ont besoin que ce soit rentable. Et nous, comme on est dans une délégation de services publics, on n'est pas obligé que ce soit rentable. Donc, la diffusion est la première mission. La deuxième, c'est l'accompagnement, justement, des musiciens de la scène locale. Donc, ce qu'on fait avec Jus quand on lui permet de jouer, de proposer des formations, des locaux de répétition, tout ça. La troisième mission, c'est l'action culturelle. C'est donc amener des artistes vers des publics qui ne seraient pas venus naturellement au Shabada, donc les scolaires, ça peut être des gens qui sont empêchés en prison pour des raisons de santé, pour des tas de choses. Et la quatrième mission, c'est l'animation du milieu culturel, en fait, de tous les métiers qu'il y a. Donc il y a des associations qui organisent des concerts, il y a des tourneurs, il y a des managers, il y a des artistes, il y a tout un tas de métiers qui existent pour que des artistes puissent être sur scène à la fin. Et nous, on est là pour animer tout ce réseau et faire en sorte que les gens puissent travailler les uns avec les autres.
Vous restez avec nous, on continuera à parler de tout ça juste après, des dernières actualités aussi du Shabada. Mais juste avant tout ça, on va écouter un podcast des indépendantes angevines.
Radio G, en DAB+, sur Angers. Savourez nos différences.
Les indépendantes angevines, la chronique des femmes qui ont sauté le pas de l'entrepreneuriat. La bulle en bois à Belbeille, ça vous dit quelque chose? C'est Sandrine, une femme résiliente et passionnée qui est à l'origine de ce tiers-lieu qui vaut le détour. Au départ, elle souhaitait devenir professeure des écoles parce qu'elle a toujours aimé être avec les enfants. Après une année en Angleterre, pendant ses études de sciences de l'éducation, elle découvre la méthode Montessori. Et là, c'est le déclic. Elle veut l'intégrer dans son métier. Elle rejoint l'IUFM et devient professeure des écoles en 2006. Mais là, ça ne se passe pas comme prévu. En 2013, après une formation Montessori, elle tente de l'appliquer dans sa classe. Sauf que ça devient vite compliqué. Elle se retrouve épuisée, surmenée et commence à développer un burn-out. C'est dur, mais c'est aussi un moment clé. Alors toujours en 2013, elle décide de se mettre en disponibilité et commence à faire l'école à la maison pour son aîné. Et puis, une école Montessori ouvre à Angers et elle se dit « pourquoi pas ?» Elle postule. Mais finalement, elle refuse le poste. Les conditions ne correspondent pas vraiment à ce qu'elle veut dans sa vie à ce moment-là. C'est là qu'elle rejoint la Fabrique à Bonheur, une association qui propose de la pédagogie bienveillante. Elle la rejoint en tant que formatrice. Fin 2013, elle accepte finalement un poste au sein de l'école Montessori, où elle évoluera pendant 5 ans, jusqu'à devenir gérante bénévole. Les prémices de sa future vie de chef d'entreprise. En 2017, sa vie personnelle bascule. Son mari la quitte et elle se retrouve dans une situation délicate, avec 3 enfants à gérer, un RSA et un logement social. Elle est toujours bénévole pour l'école Montessori, mais la situation devient compliquée à gérer. C'est là qu'elle se dit « Faut que je me lance dans quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. » Et commence à imaginer un projet qui lui trottait dans la tête depuis un moment. Un café famille. Un lieu où les parents et les enfants peuvent se retrouver, échanger et surtout se détendre. L'idée de créer un lieu où la parentalité et l'échange sont au cœur de tout. C'est ça qui l'inspire. Son nouveau compagnon la soutient et l'encourage à se lancer dans cette aventure. Ensemble, ils trouvent un local, déposent un permis de construire. C'est pas simple, mais ils y croient. En 2022, les travaux débutent et en septembre 2024, c'est enfin l'ouverture de la bulle en bois. La bulle en bois, c'est quoi ? C'est un tiers-lieu complet. Un café-cantine, un espace de coworking, des ateliers pour les familles et même un Fab Lab. Ce que Sandrine voulait, c'est un lieu où les gens pouvaient se rencontrer de manière improbable, où on peut échanger, créer des liens. L'espace cantine propose une alimentation végétale et est pensée pour les familles. Il y a un coin pour les enfants, vous vous rendez compte ? Donc les parents peuvent vraiment profiter de leur moment. Mais ce n'est pas tout. L'aspect écologique est très important aussi. L'endroit est conçu avec des matériaux respectueux de l'environnement, comme par exemple l'isolation en bois, et du mobilier de seconde main. C'est vraiment un projet qui allie la famille, l'écologie et l'inclusion. Bien sûr, tout ça demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. C'est pas facile tous les jours et Sandrine ne cache pas sa fatigue. Mais elle se sent complètement alignée avec ce projet. Et c'est ça qui la fait avancer. Aujourd'hui, le lieu est en plein démarrage. L'équipe est motivée avec plein de projets en tête, comme organiser des conférences et des ateliers sur la parentalité, l'écologie, le travail, ou encore des sessions Montessori pour les parents et les professionnels. Ce que Sandrine veut transmettre, c'est que même quand la vie te challenge, tu peux toujours rebondir et te réinventer. Son histoire, c'est celle d'une femme qui a pris des décisions, qui a su s'écouter et oser se lancer. Son conseil, ou plutôt ses conseils à celles qui ont envie de se lancer elles aussi, c'est se renseigner sur comment devenir entrepreneur auprès d'organismes tels que la CCI ou la BGE. Chercher des formations qui nous correspondent et se renseigner auprès de personnes évoluant dans un projet similaire. Parler de son projet autour de soi, à tout le monde, tout le temps, et trouver des gens qui nous inspirent et qui vont nous porter. Vous pouvez retrouver La Bulle en Bois, son programme et ses actualités sur sa page Facebook et aussi sur son compte Instagram. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire inspirante d'entrepreneuriat au féminin.
Les podcasts des indépendantes angevines que vous pourrez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et nous, on est toujours avec nos invités du soir, le Shabada, et on parle des événements à venir. Et je crois que très bientôt, il y aura Adèle Castillon en concert, c'est ça Gaëlle ?
Oui, tout à fait. Le lendemain du concert de Jus, justement, on accueillera Adèle Castillon donc, pour un concert pop le 24 avril. Et donc, ce sera juste entre Jus et ça se discute. Donc voilà, une semaine bien remplie.
Il y aura aussi des actions culturelles avec notamment l'orchestre de Joachim du Bellay qui va venir jouer avec, j'ai pas avec qui, mais si tu peux nous en dire un peu plus, Jérôme, Gaëlle, peut-être. Peu importe.
Bah, c'est avec le groupe Johan O'Johan, ça fait justement partie des choses dont je parlais tout à l'heure, l'action culturelle. Bah, là, en fait, c'est chaque année, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on le fait. On fait travailler les élèves du lycée Joachim du Bellay qui font partie de l'orchestre avec un artiste local. Donc, en fait, avec leur prof, qui est Alexandre Boutet, qui fait un travail magnifique en fait, de réarrangement. Donc, en fait, lui, il réarrange 4 ou 5 titres de l'artiste d'Angers. Et il les fait travailler avec ses élèves. Et à la fin, il y a un concert sur la scène du Shabada. Donc, tout l'orchestre, plus l'artiste local. On a fait des gens aussi différents que Arcania qui font du métal. On a fait Vapa qui fait l'électro. On a fait Lelo Joe. On a fait vraiment plein de choses différentes. Et donc, c'est une énorme expérience pour les gamins. En fait, il y en a qui... On en retrouve aujourd'hui qui sont musiciens et qui nous disent qu'en fait, bah, leur premier rapport à la musique, ça a été ce truc-là, en fait, quoi.
C'est des vrais moments de révélation, des fois.
Ah bah carrément. Et puis c'est de super haut niveau et les gens dans le public à chaque fois repartent ravis.
Et on peut peut-être rappeler la date de cet événement, c'est quand c'est ?
Alors là, à l'heure actuelle, pendant qu'on en parle, ce sera déjà passé puisque c'est le 4 avril.
Pas de chance.
Mais n'oubliez pas, l'année prochaine, ça aura également lieu, normalement, si tout se passe bien.
On espère.
On croise les doigts. Et puis, il y aura un autre projet d'action culturelle en mai, dont on pourra peut-être parler le mois prochain, lorsqu'on reviendra. Mais alors, que je ne dise pas de bêtises, c'est fin mai, et c'est le son des lycées.
Ouais.
Et là, c'est pareil, en fait, on est sur un projet d'action culturelle avec plusieurs lycées, en fait, qui se produiront sur la scène du Shabada.
Et alors, on peut peut-être rappeler toutes les informations pratiques pour ça se discute. Ça sera donc le dimanche 27 avril 2025. Pas besoin de réservation, c'est gratuit?
Non, c'est à 18h, c'est gratuit. Vous venez un petit peu avant 18h, parce qu'il n'y a pas toujours de la place pour tout le monde. Donc, les premiers arrivés, premiers servis.
Et Jus, donc toi, ton concert, ça sera le mercredi 23 avril 2025. Alors, je crois, si vous avez la carte Shabada, ça sera au tarif de 13 euros. Même tarif en pré-vente, 13 euros aussi, et au guichet, 16 euros. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jus, peut-être sur les plateformes des prochains concerts à venir?
Oui, du coup, on va enchaîner plusieurs dates, avril, mai, juin. Et puis... J'ai eu beaucoup de propositions pour jouer à deux, alors j'ai cédé, on va jouer à deux avec Alex dans un ou deux trucs. Et puis on a une tournée en Bretonie en novembre.
Et bah parfait, on va déjà te retrouver du coup le 23 avril au Shabada, on donne rendez-vous à tous nos auditeurs là-bas. Merci à vous tous d'être venus dans Topette.
Merci à vous de l'invite.
Concernant le programme de la semaine prochaine, nous, mardi, on sera avec le THV et le Festival Imaginaire, le programme de demain, pardon. Mercredi, on sera avec le Bioparc de Douai-la-Fontaine. Jeudi, avec un forgeron. Et nous, on se quitte avec un podcast de Pensée Locale. Et moi, je vous dis à mardi et topette.
Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
On retrouve Clara Marie en charge de la communication et Sébastien Roche, technicien de rivière du syndicat mixte du bassin de l'Authion et de ses affluents.
Syndicat mixte du bassin de l'Authion et de ses affluents, qu'on appelle aussi SMB2A. Donc en fait, c'est une collectivité territoriale qui est en charge de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l'Authion. Donc le bassin versant de l'Authion, il s'étend à peu près donc d'Angers jusqu'à Bourgueil, donc à cheval sur deux départements, l'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire. Donc c'est un bassin qui fait un peu plus de 1500 km² avec plus de 1200 km de cours d'eau. Et donc nous, sur ce territoire, on exerce la compétence GEMA. Ça signifie gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Donc normalement, c'est une compétence qui est attribuée aux communautés de communes. Mais donc dans certains cas, donc les communautés de communes peuvent décider de déléguer en fait cette compétence à des syndicats mixtes. En fait, le bassin versant, c'est tout le territoire qui va recevoir les eaux de pluie, des eaux qui vont ruisseler jusqu'aux rivières, qui vont stagner dans des zones humides. Et donc, en fait, la limite de ce bassin versant, ça va être tout simplement les lignes de crête. Donc nous, le bassin versant de l'Authion, il a quand même une topographie assez particulière. Donc en fait, toutes les parties amont du bassin versant, on va retrouver donc des petits cours d'eau comme le Coinon, le Latan, le Changeon, qui vont y prendre leur source. Ces cours d'eau donc, se jettent ensuite dans l'Authion. Bon, là, on est sur la partie avec beaucoup moins de relief qu'on appelle en fait le Val d'Authion. Donc c'est un val qui a été aménagé pour favoriser l'agriculture. Moi, mon métier, c'est chargé de communication. Donc c'est de mettre en avant les actions qui sont faites par mes collègues. Donc sur plusieurs volets, on va avoir le volet restauration des milieux aquatiques. On va avoir le volet aussi accompagnement vers les changements de pratiques.
On passe la parole à Jean-Baptiste Roche, technicien de rivière. Mais c'est quoi un technicien de rivière?
Un technicien rivière, ça fait beaucoup de choses. Donc en fait, moi, mon métier, c'est de restaurer les rivières, de faire en sorte de leur redonner leur fonctionnalité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale en France, entre les années 50 à 2000, les rivières ont été curées pour des raisons notamment agricoles. Et on se rend compte aujourd'hui qu'à cause de ces travaux, il y a beaucoup de dysfonctionnements qu'on paye, avec des rivières qui fonctionnent moins bien, qui ont longtemps, ça va plus s'assécher, créer des inondations plus facilement aussi. Donc nous, notre métier, c'est de restaurer la rivière pour redonner ses fonctionnalités, tout en permettant les usages de perdurer. Pour nous, il est hors de question d'aller restaurer une rivière, d'aller empêcher un agriculteur de pouvoir faire son métier correctement. Il y a plein de techniques différentes. Là, cette année, on va lancer une étude spécifiquement sur le changeon, donc c'est le secteur que je gère. Une étude pour retrouver les champs d'expansion de crues de la rivière. Donc l'idée, ça va être, on fait une grosse étude pour faire déborder la rivière sur certains secteurs, sur les secteurs qu'on a choisis, sur les secteurs où les enjeux le permettent, par exemple des bois ou des prairies. Le deuxième intérêt, c'est que le fait de faire déborder la rivière l'hiver sur les parcelles voisines permet aux nappes de se recharger d'une meilleure manière, ce qui permet d'avoir plus d'eau l'été, de pouvoir aussi avoir des zones humides qui fonctionnent bien. Ce qu'on a de la chance sur le changeon, c'est qu'on a beaucoup de zones humides, mais qui ont tendance à ne pas très bien fonctionner parce que le niveau de nappe a baissé et donc elles ont perdu leur connexion avec la nappe alluviale de la rivière. D'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que les travaux, comme je vous ai dit, qui ont été faits dans le passé, ont tendance à accélérer par exemple les inondations. Une rivière, normalement, fait plein de méandres, plein de virages. En gros, tous les deux ans, une rivière doit déborder de son lit. Le fait d'avoir creusé ces rivières, de les avoir curées, les crues arrivent plus rapidement sur des points bas. Puis des fois, ça arrive au niveau de ville ou de choses comme ça. Donc, une rivière qui est creusée, qui est rectiligne, aura tendance à perdre plus facilement son eau et à drainer la nappe qu'elle a autour d'elle. Donc, dans ce contexte de changement climatique, il est d'autant plus important de pouvoir restaurer les rivières. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cours d'eau permet tous les usages, notamment l'alimentation en eau potable, puis usages qui se font dans les nappes alluviales des cours d'eau. Le cours d'eau rend plein de services avec, par exemple, l'auto-épuration des eaux. Une rivière qui fonctionne bien va permettre d'avoir une eau de bonne qualité. Processus physico-chimique qui se met en place avec les organismes qui vivent dans la rivière et qui permettent, par exemple, de faire partir une partie des nitrates. Et derrière, ensuite, il y a toute une phase de concertation avec les propriétaires, parce que nos cours d'eau sont sur des propriétés privées, sont propriétés des propriétaires riverains, et donc on doit travailler avec leur accord. Donc de la médiation, de la discussion, pour expliquer l'intérêt du projet aux propriétaires et pour avoir leur accord.
Michel Boutreux, RPSFM.
C'était L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de La Frappe, en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.